Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 août 2022. Vous écoutez Charles Matin. J'espère que vous allez bien et que le week-end a été bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il a encore fait très chaud ce week-end et c'est pas fini. Un nouveau pic est attendu cette semaine. Tout le territoire sera concerné. On fera le point avec Anthony Kaczmarek dans un instant. Ce matin, on va justement parler des conséquences pour les agriculteurs. Dans le Gard, un éleveur de brebis a mis en vente une partie de son troupeau sur Internet. Il ne peut plus les nourrir. Reportage à suivre dans 10 minutes. Et j'attends vos témoignages ce matin. Vous êtes agriculteur, céréalier, vigneron, producteur de légumes, éleveur. Venez nous dire quelles sont les conséquences de cette sécheresse exceptionnelle sur votre exploitation. Et puis, on va essayer de trouver des solutions durables pour faire face à cette sécheresse. Certains plaident pour une tarification progressive de l'eau dans toutes les villes. Le premier mètre cube serait gratuit. Ensuite, l'eau serait de plus en plus chère. Ça existe dans plusieurs villes de France. On le verra. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'il faut pénaliser les gros consommateurs pour responsabiliser? Vous nous dites au 3216 sur l'appli Direct Studio et sur la page Facebook Les Matins d'RMC. On va aussi parler ce matin de ce qu'il s'est passé à Pontoise vendredi. Deux enfants de 10 et 11 ans gravement blessés par une moto lors d'un rodéo urbain. Le phénomène des rodéos urbains ne s'arrête pas malgré la loi de 2018 qui a durci les sanctions. Alors, quelle solution? Je vous pose la question ce matin et je vous attends au 32-16. On va y revenir en détail à 5h40. Et puis, évidemment, il y aura tous nos rendez-vous dans la Story Sport juste après le journal de 5h30 avec Léna Marjac. On va parler d'Alexander Zverev qui a révélé être diabétique. Il avoue avoir eu honte d'être atteint par cette maladie. Et puis, l'été d'Angèle à suivre juste avant 6h. On va réécouter les Beatles aujourd'hui. Avant ça, la météo du jour avec Anthony Kaczmarek. Bonjour Anthony.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Je le disais, un nouveau pic de chaleur est donc attendu cette semaine, en fin de semaine je crois. Les températures commencent déjà à grimper là aujourd'hui.
Oui, et déjà ce matin, on est entre 11 et 18 degrés sur la moitié nord. C'est plus élevé qu'hier et plus de 20 degrés dans le sud. Dans l'après-midi, il fera 27 à Lille et à Brest, 30 à Paris, à Nice et à Rennes, 32 à Nantes, 33 à Lyon et Grenoble, 35 à Bordeaux et Toulouse, 37 à Nîmes, toujours deux départements en vigilance orange canicule, le Gard et le Vaucluse. Côté ciel, c'est simple. Plein soleil, ciel bleu, à peine un voile de nuages dans l'ouest et puis toujours quelques orages qui se déclencheront en fin de journée sur les Alpes, les Pyrénées et le relief Corse et puis toujours ce Mistral qui souffle à 40 km/h dans la vallée du Rhône.
Merci beaucoup Anthony.
Votre météo en toute sérénité avec Vérissure. Vérissure, le numéro 1 des alarmes et caméras avec protection 24h sur 24. Lundi 8 août,
l'info sur RMC.
Il est 5h, vous écoutez RMC, c'est l'heure du journal de Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Une trêve entre Israël et le djihad islamique après 3 jours de violences qui ont fait 44 morts. Un cessez-le-feu en vigueur qui semble être actuellement respecté. Un suspect arrêté après le rodéo à Pontoise qui a blessé gravement 2 enfants, c'était vendredi soir. Il s'agit d'un jeune homme du quartier âgé de 18 ans. Et les enseignements de la première journée de Ligue 1 avec qui s'est fait surprendre à domicile face à Lorient.
Le cessez-le-feu entre Israël et le djihad islamique à Gaza, toujours en cours au Proche-Orient.
Une trêve précaire qui est entrée en vigueur hier soir à 23h30 heure locale après 3 jours de combat et 44 Palestiniens tués. Et pour le moment, Garance Munoz, cette trêve semble être respectée.
Oui, un cessez-le-feu fragile. D'après l'ONU, ces 3 derniers jours ont été le théâtre d'échanges de tirs nourris qui ont donc coûté la vie à 44 Palestiniens, dont 15 enfants, selon le dernier bilan du ministère de la Santé palestinien. Du côté israélien, 3 personnes ont été blessées. Jusqu'aux dernières minutes précédant la trêve, les frappes israéliennes se poursuivaient sur la bande de Gaza. Israël, comme les autorités palestiniennes, ont mis en garde en cas de violation de l'accord par l'autre partie. La réponse serait immédiate. À Gaza, la situation est précaire. L'unique centrale électrique est fermée depuis samedi par manque de carburant. Le principal hôpital manque de médicaments et déplore des coupures d'électricité. Parmi les garanties négociées, l'Égypte, médiateur de cette trêve, s'est engagée à faciliter la libération de 2 prisonniers du djihad islamique incarcérés par Israël. Cette confrontation est la pire depuis mai 2021. En 11 jours, 260 Palestiniens avaient été tués, 14 du côté israélien.
Merci beaucoup Garance Munoz pour toutes ces précisions. Autre situation inquiétante, notamment pour le secrétaire général des Nations Unies, c'est près de la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine, puisque le site de la plus plus grande centrale de ce type a de nouveau été bombardée ce week-end. Deux bombardements en un peu plus de 24 heures. Et ce matin, Antonio Guterres qualifie de suicidaire ce genre d'attaque. Il appelle à l'arrêt des opérations militaires dans la région. Kiev et Moscou qui s'accusent mutuellement d'être les auteurs de ces frappes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce même un acte de terreur de la part de la Russie.
La situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia s'aggrave. Les terroristes russes sont devenus les premiers au monde à utiliser cette centrale, la plus grande d'Europe, à des fins terroristes. Nous insisterons pour que de nouvelles sanctions soient imposées à la Russie pour avoir créé une telle menace mondiale. Le bombardement russe de la centrale est l'un des crimes les plus dangereux contre les Ukrainiens et tous les Européens.
RMC 5h03, on en vient maintenant à la sécheresse qui frappe toujours le pays.
Et ce n'est pas prêt de s'arranger, hein, puisque de fortes chaleurs sont encore attendues dans les prochains jours. La France qui manque d'eau, dans plus de 100 communes du pays, il n'y a plus d'eau potable. Alors, pour préserver cette ressource et éviter le gaspillage, une mesure revient régulièrement dans les débats, celle de mettre en place une tarification progressive de l'eau. Alors concrètement, les premiers mètres cubes d'eau pour les besoins courants seraient gratuits, mais ensuite, plus on consomme, plus la facture serait élevée. François Brotte est un ancien député et auteur d'une proposition de loi en ce sens en 2012.
Plus on consomme, plus ça coûte cher. C'est évident que ça marche. Le tarif progressif, pour simplifier les choses, permet d'avoir des marges de tarification avec des idées d'eau essentielle, puis d'eau utile et puis d'eau de confort. C'est un élément que les gens doivent intégrer comme un élément de contrainte, mais c'est pour le bonheur de tous. Hein. Si vous voulez laver sa voiture en période de sécheresse, si on n'attaque pas un peu le porte-monnaie pour dire qu'il faut arrêter les conneries, c'est pas facile. Pardon d'être un peu vulgaire et trivial, mais je pense que ça peut être utile.
Et c'est dans ce contexte de manque d'eau que des incendies se sont de nouveau déclarés ce week-end. En Bretagne notamment, où 300 hectares ont été détruits par les flammes, en Dordogne également, mais aussi en Isère. Incendie déclenché vendredi par la foudre au nord de Grenoble. Plusieurs hameaux du secteur ont d'ailleurs été évacués jusqu'à très tard hier soir. 75 hectares déjà brûlés. Luc Raymond est le maire de Vorup, où 130 personnes ont dû quitter leur domicile.
Il y a deux quartiers qui sont à proximité de zones boisées, donc qui ont été évacuées. L'incendie était à quelques centaines de mètres de ces maisons, donc à titre préventif. Tout, on a prévu un accueil, mais la plupart sont allés soit chez des amis, soit dans de la famille. Le dernier incendie important, c'est il y a 19 ans. On est à flanc de montagne, c'est la Chartreuse. Ils sont des zones boisées, avec des falaises à différents niveaux, donc des endroits qui ne sont pas accessibles. Il y a quelques endroits où il y a des sentiers de randonnée, mais c'est tout. Les véhicules ne peuvent pas accéder à ces endroits-là.
Luc Raymond, le maire de Vorep, en Isère.
En direction Pontoise, à présent, c'est dans le Val d'Oise où l'émotion est toujours grande dans le quartier de Marcouville.
Un quartier où deux enfants de 10 et 11 ans ont été gravement blessés vendredi soir lors d'un rodéo urbain. Une enquête est en cours pour blessures involontaires aggravées et délit de fuite. Un suspect est en garde à vue. Il reconnaît les faits et dans le quartier Maxime Lévy, on ne comprend pas ce qu'il s'est passé.
Entre les chemins sinueux de ce quartier populaire et boisé, au milieu des barres d'immeubles, un sujet est au cœur de toutes les conversations des rares habitants présents dehors, ce rodéo à moto qui a fini en drame. Sur un banc, deux retraitées, si elles ne souhaitent pas se confier au micro, elles ne cachent pas leur émotion. C'est terrible, lance l'une d'elles, deux pauvres gamins blessés, alors qu'ils s'amusaient. Avant de laisser place à la colère, ils n'arrêtent pas avec leur moto tous les jours. Ils zigzaguent sur les chemins de terre là, où mes petits-enfants ont l'habitude de jouer au ballon. Ils, ce sont les plus jeunes du quartier. Ils sont assis plus bas, près du parking, tous connaissent le pilote de la moto. Bien sûr qu'il n'a pas fait exprès de les renverser. C'était un accident, explique l'un d'eux. Ils ne s'exprimeront pas plus sur leur ami, qui a reconnu les faits en garde à vue, en affirmant ne pas avoir vu les enfants qui jouaient.
Maxime Lévy du service police-justice de RMC. En bref, le budget pour l'année 2023 commence à être dévoilé. Gabriel Attal, le ministre délégué chargé des comptes publics, en a présenté les grandes lignes dans un entretien accordé aux Échos ce matin. Un budget de 339 milliards d'euros pour l'État, à retenir notamment plus 3,6 milliards pour l'éducation nationale et la hausse de 6,1 milliards d'euros pour ce qu'on appelle le bloc régalien, à savoir les ministères de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice et des Affaires étrangères.
La fin de la première journée de Ligue 1, marquée par une victoire de Marseille à la maison.
Victoire devant Reims, 4 buts à 1 pour la première du coach de l'OM en championnat, Igor Tudor. En revanche, mauvaise entrée en matière pour le Stade Rennais, Rennes qui s'est incliné à domicile face à Lorient, 1 but à 0, Xavier Grimaud.
Oui, certes, Rennes s'est incliné sur le plus petit des scores hier et sur un but contre son camp, mais les spectateurs du Roazhon Park n'ont sans doute pas reconnu leur équipe. Flavien Tay, le milieu rennais.
On a déjoué un petit peu, on a manqué de talent offensif. J'ai pas senti aujourd'hui l'équipe avec du mordant. Mais après, il y a aussi des choses qu'on doit peaufiner. Il y a des nouveaux joueurs. Je pense qu'on doit faire beaucoup mieux. Après, c'est un premier match, la saison elle est encore longue.
Bruno Genesio était même plus sévère sur certains gestes techniques superflus, un peu suffisants, mais ne veut pas déjà dramatiser.
Ça m'a particulièrement énervé par contre. J'ai basé ma causerie sur l'humilité, sur le fait qu'il faut toujours vouloir avancer, progresser. J'espère que c'est qu'un accident, que ça nous servira de leçon. Maintenant, si après la première journée, parce qu'on perd à domicile un petit peu contre le cours du jeu, on est déjà alarmiste et défaitiste, la saison va être très longue.
Rennes devra vite se reprendre avec un déplacement à Monaco dès le week-end prochain.
Xavier Grimaud de RMC Sport. Autre résultat de cette première journée, victoire de Lille, 4 buts à 1 face à Auxerre. Lens s'est imposé 3 buts à 2 à Bollard face à Brest. Et 3 s'est incliné à Montpellier, 3 buts à 2 pour les Montpellierains.
On termine ce journal en prenant des nouvelles du Beluga qui a été repéré dans la Seine ces derniers jours. Comment va-t-il ?
Et il ne va pas très bien. L'animal refuse toujours de s'alimenter. Il semble très affaibli. Si l'ONG Sea Shepherd, qui agit pour la défense des océans, a peu d'espoir, les autorités estiment que le défi de sauver l'animal n'est pas impossible. Isabelle Dorlia-Prouzet est la sous-préfète d'Evreux.
Il y a plusieurs pistes possibles. Il y a toujours le fait de le laisser remonter vers l'embouchure de la Seine en le suivant et en l'accompagnant. Il faudrait qu'il soit en grande forme, ce qui n'est pas le cas au moment où nous nous parlons. D'autres hypothèses, c'est de le laisser finir sa vie tranquillement. Une autre hypothèse, c'est s'il en a la force de le transporter sur un lieu de soins pour pouvoir ensuite être remis à la mer. C'est un animal qui est malade de longue date. S'il ne mange pas, c'est... probablement parce qu'il est très malade depuis longtemps et non pas parce que les aliments qu'il croise ne lui conviennent pas.
En effet, c'est pas très rassurant. Ouais. On va suivre ça évidemment sur RMC. Merci beaucoup Stéphane, on te retrouve dans moins d'une heure toute l'équipe. C'est l'heure de jouer.
RMC, la voix du jour.
La voix du jour, c'est cette voix qui vous permet de commencer la journée avec des beaux cadeaux. Je vous rappelle le principe, autant de l'oreille pour reconnaître la voix de cette personnalité.
J'ai toujours en sorte d'oxygéner le groupe, de mettre de la fraîcheur, parce qu'on sait jamais aujourd'hui, si j'avais une liste de 23 pour la Coupe du Monde, je suis quasiment certain que ça sera pas la même en novembre.
Alors, je vous donne un indice, ce monsieur donne une grande interview dans le journal Le Parisien aujourd'hui. « Je ne suis pas là pour durer, mais pour gagner », dit-il. Il s'exprime à quelques mois du Mondial au Qatar. J'imagine que vous avez reconnu sa voix. Je peux vous dire que c'est le coach. Et je peux vous dire bleu, voilà, c'est tout. Oh, allez, c'est donné. Si vous avez reconnu la voix du jour, vous faites le 32-16 et vous repartirez peut-être avec une montre Ice Watch Solar Power qui se recharge à la lumière naturelle et artificielle. Bonne chance à vous. À suivre dans Charles Matin, notre débat du jour. Faut-il mettre en place une tarification progressive de l'eau partout en France pour responsabiliser la population ? L'objet à faire attention à sa consommation d'eau. C'est ce qui se fait déjà dans plusieurs villes, notamment à Dunkerque. On vous pose la question ce matin en voyant évidemment ce qu'il se passe aujourd'hui. L'ensemble du pays concerné par la sécheresse et les restrictions de l'usage de l'eau, des restrictions qui sont mises en œuvre un petit peu partout. Faut-il aller plus loin ? Vous nous dites. Et puis on va entendre la détresse d'un éleveur obligé de vendre une partie de son troupeau de brebis. Et il l'a fait sur Internet. Reportage dans le Gard dans un instant. A tout de suite.
RMC jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Il est 5h11. Bon réveil à tous. Faut-il pénaliser les gros consommateurs d'eau ?
C'est la question du jour sur RMC.
Pour préserver l'eau et éviter le gaspillage, une mesure revient régulièrement dans les débats, la tarification progressive de l'eau. Proposition qui figurait au programme de la NUPES et qui est d'ores et déjà mise en place dans plusieurs communes. En clair, les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits, mais ensuite, plus on consomme, plus la facture est salée. Une expérimentation a lieu dans une cinquantaine de villes depuis 2013. Et depuis 2019, toutes les communes peuvent avoir recours à ce type de tarification. Il reste cependant à la marge, d'où cette question, est-ce qu'il faut généraliser ? Vous nous dites ce matin sur RMC, il y a d'autres solutions, l'instauration de quotas en eau par utilisateur, la construction de retenues d'eau qui se remplissent en hiver, la réutilisation des eaux usées. Vous nous dites là aussi ce que vous en pensez, on va en parler ce matin avec Tristan Mathieu, délégué général de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. À 8h10, rendez-vous à ne pas rater sur RMC. En attendant, je voulais que vous entendiez les conséquences directes de cette sécheresse historique pour les agriculteurs. À cause du manque de pluie, les éleveurs ont de plus en plus de mal à nourrir leurs bêtes. La situation est telle que dans le Gard, un éleveur de brebis a décidé de mettre une partie de son troupeau à vendre sur Internet. C'est un reportage à Lucan, signé Estelle Henry.
Et voilà, c'est tout brisé. Ça vaut plus rien.
Une herbe brisée, autrement dit tellement cassante et sèche qu'elle est immangeable pour les brebis. Un problème qui oblige Luc Inselin, berger éleveur depuis plus de 30 ans, à déplacer tous les jours ses 400 bêtes.
Des amis agriculteurs m'ont donné des champs à faire manger en pensant qu'il y avait de l'herbe, mais il n'y a rien, donc là on s'en va. On fait que ça. On change tous les jours. Beaucoup plus vite que d'habitude.
Une sécheresse exceptionnelle à laquelle s'ajoute l'explosion du coût du transport et du foin. Au pied du mur, l'éleveur a décidé de vendre 180 brebis de son troupeau.
J'ai décidé de vendre une partie du cheptel. Après avoir passé une nuit à faire les comptes, j'ai fait ça pour pouvoir garder mon cheptel en état.
Un manque de nourriture qui oblige Luc Inselin à acheter du foin en grande quantité pour nourrir correctement ses bêtes.
Une partie de la vente des brebis va me permettre d'acheter du foin pour les autres. Je viens de commander un camion de foin. Il y a une dizaine de tonnes. L'année dernière, ça me coûtait en gros 2000 euros. Cette année, le même camion va me coûter 2800 euros. Et c'est que le premier. Aujourd'hui, moi, sur une exploitation comme la mienne, j'ai un coût supplémentaire de charge qui va être de environ 27 000 euros. Donc, des situations comme ça, moi, je n'en ai jamais connues.
Une situation qui touche de nombreux autres agriculteurs de la région et qui risque de durer. Luc Inselin en appelle au gouvernement.
Aujourd'hui, on demande le quoi qu'il en coûte pour les éleveurs. On a trouvé de l'argent pour les restaurateurs. On devrait arriver à trouver quelque chose pour les agriculteurs et les éleveurs. Nous, aujourd'hui, on a des besoins urgents. Il faut que le gouvernement fasse pression auprès des banques pour qu'on ait des reports de prêts, donc ça veut dire une année blanche, des reports d'annuités. Qui peut nous aider ? Et puis un petit coup de pouce sur les transports et tout. Mais aujourd'hui, il y a une détresse vraiment profonde des éleveurs qui se posent beaucoup de questions.
Après 4 mois dans les champs, Luc Inselin fera rentrer ses brebis à la ferme en septembre, soit 2 mois plus tôt que d'habitude, faute de pâturage pour ses bêtes.
Vous êtes agriculteur, venez témoigner ce matin sur RMC. Dites-nous quelles sont les conséquences pour vous. On vous attend au 32-16 et sur l'application Direct Studio. Il est 5h15, vous écoutez RMC.
Les artisans de nos régions.
C'est l'heure donc de ce nouveau rendez-vous. Jusqu'à la fin du mois d'août, on va vous faire découvrir des métiers méconnus, des professions ancrées dans le territoire. Et après avoir parlé des cidriers normands, des producteurs de piment d'Espelette, focus sur celles et ceux qui font la dentelle de Calais. Après plusieurs années compliquées, difficiles, liées à la chute de la demande en dentelle, la dernière entreprise de dentelle qui est située à Calais, l'entreprise Darquet, veut croire en son avenir. Reportage RMC, signé Lionel Top.
C'est dans le vacarme de ces grosses machines, vieilles de plusieurs décennies, que travaille Frédéric, les yeux rivés sur cette vieille dame, comme il l'appelle.
C'est un métier divers, qui a une centaine d'années à peu près. Alors ça a été importé, les premières machines ont été importées en 1816. Ça vient d'Angleterre.
20 tonnes de mécanique en fonte, des mécaniques bien huilées. Chaque mouvement, chaque point de couture se fait à partir de ce qui ressemble à une carte de boîte à musique.
Vous voyez là, c'est percé, bouché. Un trou, c'est un passage de fil. C'est un tissage qui est créé par la bobine. On vulgarise, mais c'est un orgue de babarie.
Et il perpétue ici un artisanat. Travailler dans la dentelle, c'est une passion. Et pour la plupart des denteliers, une très grande fierté. Corinne travaille ici depuis 37 ans.
C'est un plaisir, c'est un honneur quand même, parce que c'est des générations qui sont passées sur ces machines. C'est l'histoire de la ville de Calais en plus.
Et la dentelle, on y baigne souvent dès le plus jeune âge.
En fait, c'est ma mère qui m'a appris le métier en fait. Donc, elle a fait toute sa carrière dans la dentelle. Et mon mari aussi a travaillé dans la dentelle.
Loin des 28 000 ouvriers au début du XXe siècle, ils ne sont plus que 90 à travailler chez Darquet, la dernière usine de dentelle à Calais.
Je me demande toujours s'il y aura quelqu'un après moi.
Thierry a 60 ans.
Mais je pense pas.
Son départ à la retraite approche.
Par rapport à avant, il n'y a plus tellement de travail quand même dans la dentelle. On arrive à la fin, quoi. Je ne sais pas s'il y aura de la relève ou...
Attirer une nouvelle génération, c'est justement le principal défi. Rémi a 24 ans, il vient de commencer ses 3 ans d'apprentissage.
Je suis venu ici pour apprendre le métier de tuiliste. Donc mon métier consiste à nouer les rouleaux, surveiller la qualité de la dentelle, régler les jeux et surveiller la machine en fait. On n'a pas la pression, c'est un gros mot, mais j'aimerais bien être la relève, c'est sûr.
Non, la dentelle de Calais n'est pas morte. C'est aussi le message de Sébastien Suarez-Bento, le directeur général du groupe Darquet.
On a tous en tête la fameuse robe de Kate Middleton. On a eu Kim Kardashian par exemple. C'est à nous aussi de montrer que la dentelle, c'est pas simplement qu'une dentelle florale classique que l'on produit depuis des années. Mais on est aussi capable de fabriquer des choses beaucoup plus modernes.
Un savoir-faire que vous pouvez d'ailleurs découvrir à la Cité de la Dentelle à Calais. Son histoire, les créations, les métiers à tisser centenaires. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi.
Le savoir-faire, l'artisanat français à l'honneur sur RMC avec ce reportage dans l'entreprise Darker. Vous savez que c'est un sujet qui nous tient à cœur. D'ailleurs, si vous voulez témoigner, nous raconter ce que vous faites, je vous attends évidemment au 32-16. Je serais ravie, vraiment ravie de vous mettre à l'honneur. Je vous donne la suite du programme ce matin. 5h40, on va parler des rodéos urbains parce qu'un rodéo à moto a fait 2 blessés graves à Pontoise vendredi. 2 enfants de 10 et 11 ans. Preuve que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent ne suffisent pas. Les rodéos continuent de se multiplier. Comment faire pour lutter contre ce fléau? On vous attend ce matin au 32-16. Et puis notre débat du jour. Alors que le pays connaît une sécheresse historique, faut-il pénaliser les gros consommateurs d'eau, mettre en place une tarification progressive? Je vous attends là aussi au 32-16 et sur Direct Studio. Tiens, Momo nous appelle de Vitrolles. Bonjour Momo. Ça va bien? Ça va d'abord, Momo?
Bah, fatigué, t'es au Vélodrome hier soir.
Ah, alors, bon, vous avez passé une bonne soirée, c'était un beau match.
Oui, 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 on récupère toujours mieux après une victoire.
Victoire 4-1 face à Reims. J'ai un peu de mal à le dire, parce que vous savez que moi, je viens de la Marne, mais bon.
Je sais.
C'est vous qui pouvez fanfaronner ce matin. Ça vous a rassuré, le match d'hier, Momo?
Bah, rassuré, oui et non. En fait... J'avais un peu d'appréhension pour le premier match parce que les matchs amicaux, ils n'ont pas été bons. Ouais. Il y a eu pas mal de tensions au sein du groupe.
Ouais.
Et ça va se bien dérouler hier. On attend de voir quand il y aura des adversaires un peu plus forts.
Oui. Non, parce que c'est vrai qu'Igor Tudor, hein, le nouvel entraîneur qui vient à peine d'arriver, on peut le dire, était déjà vivement critiqué ce matin. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
À qui? À Tudor?
Ah ouais?
Ouais, ici là à Marseille, qu'il y a certains codes qu'il faut respecter.
À savoir?
À savoir que l'équipe et les supporters font qu'un.
Ouais. Il a fait le job hier, non?
Hier, il a fait le job, mais bon, après, il a mis Payet remplaçant. Payet, il a beaucoup d'influence sur le vestiaire.
Ouais.
Voilà, c'est.
C'était une erreur. Voilà. C'était une erreur.
Non, parce que hier ça s'est bien passé, mais après il faut voir quand ça se passe mal. C'est là qu'on va juger vraiment l'effectif, l'entraîneur, c'est quand ça va se passer un peu mal.
Ouais, on vous sent prudent, on vous attendait de voir. Hein. Alors victoire hier, ouais. Mais on va pas s'emballer avec ce nouvel entraîneur. Mmh. On va voir. Vous nous dites Momo ce matin.
C'est ça.
Momo, ce matin, on a ce débat donc sur la tarification progressive de l'eau pour faire face à cette sécheresse inédite qui touche tout le territoire, on peut le dire. Il faut bien trouver des solutions. Est-ce que ça vous paraît une solution envisageable de mettre en place une tarification progressive dans toutes les communes? Parce que certaines le font déjà, comme Dunkerque notamment, mais pas toutes.
Je sais pas si ce serait la bonne solution. Moi, je partirais plus sur au bout d'un certain nombre de litres consommés, quand on ralentit le débit.
On ralentit le débit.
Ouais.
Vous seriez plus pour des quotas, on va dire.
Ouais, voilà, à peu près comme ça. Moi, je sais que
l'instauration de quotas en eau par utilisateur, ça, c'est peut-être encore plus difficile, non?
Je sais pas. En fait, je sais pas si c'est la bonne solution. Je sais qu'on est en manque d'eau, ça c'est sûr. J'ai pas vu la pluie, franchement, depuis je sais pas combien de temps. Moi, j'ai un ruisseau en bas de chez moi. Il est sec. C'est la première fois en 40 ans que je le vois comme ça. Mmh. Et c'est que de la terre. C'est révélateur, quoi.
Ah bah bien sûr.
Et franchement, je veux dire un truc. Je suis super content qu'on n'a pas fait l'exploration de gaz de schiste et pétrole de schiste comme à un moment et certaines personnes voulaient faire. Parce que on aurait pollué les nappes phréatiques, tout ça. Et l'eau, c'est vraiment une richesse.
Ah mais, et on s'en rend compte encore plus aujourd'hui. Merci beaucoup, Momo, d'avoir réagi ce matin sur RMC. Et à très vite. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Il est 5h22. Vous restez avec nous. Dans un instant, les Insolites de Quentin. Tout de suite. Il est 5h23. Ravi de vous retrouver. Bon réveil à tous. À la une de l'actualité ce matin, une trêve très précaire entre Israël et le djihad islamique à Gaza. L'armée israélienne a dit avoir mené des frappes sur des positions du groupe armé palestinien en réponse à des roquettes tirées vers le sud du territoire israélien jusqu'aux dernières minutes avant le début du cessez-le-feu. Point complet dans le journal de 5h30. L'évacuation préventive de 130 personnes à cause d'un incendie de forêt en Isère. Le feu a démarré vendredi sur les communes de Vorep et de la Buisse avant de se déplacer vers celle de la Sûre en Chartreuse. Une centaine de pompiers mobilisés. Ça brûle aussi dans la forêt de la Double, dans l'ouest de la Dordogne. On va y revenir. Et puis l'OM s'est largement imposé face à Reims hier soir en clôture de la première journée de Ligue 1. 4-1. Les Marseillais ont offert une solide prestation au Vélodrome pour la première d'Igor Tudor qui était satisfait hier soir.
Je suis content, c'est une victoire nette et méritée. La première mi-temps m'a beaucoup plu, il y a eu beaucoup d'intensité. En seconde mi-temps, un peu moins, mais c'est une victoire méritée. Je veux féliciter les joueurs et les supporters pour l'ambiance.
Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, satisfait après donc sa première en championnat. La météo du jour avec Anthony Kaczmarek. Le temps sera toujours sec malheureusement aujourd'hui.
Oui, soleil, ciel bleu, toujours à peine voilé dans l'ouest. Et puis toujours ces quelques averses orageuses, mais uniquement sur les reliefs dans l'après-midi. Les Pyrénées, les Alpes et la montagne Corse. Les températures, eh bien ça y est, ça repart à la hausse. 25 à 32 sur la moitié nord et déjà 30 à 37 dans le sud.
Merci beaucoup, c'est l'heure des Insolites de Quentin.
Les Insolites de Quentin.
Bonjour Quentin Dubois.
Bonjour.
Comment tu vas?
Ben ça va très bien.
Bon week-end?
Pas très productif, donc oui.
Ah, bon, j'espère quand même que tu as repéré quelques petites histoires.
Je fais que ça.
Ah, tu voulais notamment nous parler d'un joueur de foot qui a raté son mariage pour ne pas manquer l'entraînement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Eh oui, oui, ça a dû être une décision très dure à prendre pour l'attaquant sierra-léonais Mohamed Bouya Touré, rejoindre son nouveau club au plus vite ou assister à son propre mariage. Ce qui s'est passé, le mariage était prévu le 21 juillet en Sierra Leone et la signature officielle avec le club suédois de Malmö devait avoir lieu le 22 juillet. Jusque-là, tout s'enchaîne plutôt bien, mais ayant trouvé un accord plutôt que prévu, le club a demandé aux joueurs de venir le plus rapidement possible pour ne pas manquer la pré-saison. Mohamed Bouya Touré a donc choisi son club plutôt que sa chair et tendre.
Donc le mariage n'a pas eu lieu, c'est pas possible.
Eh bien figurez-vous que si Mohamed Bouya Touré a trouvé la solution pour que la mariée ne soit pas seule, il est futé, il a tout simplement envoyé son frère pour le représenter lors de la cérémonie.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je n'invente rien, je vous promets.
Mais c'est alors scandaleux.
Ils ont diffusé des photos de mariage sur les réseaux sociaux qui ont été prises à l'avance. Donc j'imagine que la mariée, on ne sait pas si elle l'a bien pris, mais on peut se faire une petite idée.
Donc,
quand
attends,
même.
Quoi, un mariage bidon?
Non, c'est un vrai mariage, mais disons que son frère, en gros, il était là pour que la mariée soit pas seule et j'imagine faire acte de présence, passer une bague au doigt, voilà, histoire de
histoire.
Pas annuler la cérémonie.
Attends,
quoi.
Non, mais attends, j'aurais été là mariée, mais je me marie pas. Ouais, je me marie pas avec un type qui est comme ça.
Ça fait mal,
c'est mal. C'est pas possible. Peter Perry, une annonce pour un job de rêve, si on aime les bonbons.
Oui,
il y en a beaucoup.
Encore une nouvelle annonce pour un boulot plutôt atypique, être payé pour manger des bonbons. C'est l'entreprise canadienne Funny Fun House qui a posté cette annonce. Pour 100 000 dollars canadiens par an, soit 77 000 euros environ, devenez directeur général des confiseries. Ça paraît simple dit comme ça, mais il faut avoir de l'appétit et de l'endurance, car on parle d'au moins 3 500 bonbons par mois à goûter, soit un peu plus d'une centaine par jour. Pour ce poste, il faut donc aimer le sucre et avoir des papilles aiguisées.
Alors, en quoi ça consiste exactement?
Le poste consiste à aiguiller les 3 bonbons logs déjà présents dans l'entreprise. Ce mot existe, je n'invente rien. Vos missions en tant que goûteur en chef de l'entreprise seront, entre autres, d'organiser les réunions du conseil de confiserie, organiser la stratégie des bonbons de la marque et, très important...
Ah, ça fait un peu... Tu sais à quoi ça me fait penser, à Charlie et la chocolaterie.
Ouais, exactement, ouais. Et très important, approuver ou pas les nouveaux produits. Pas d'obligation d'être canadien pour prétendre à ce poste. Il faut juste vivre en Amérique du Nord, pouvoir y travailler et avoir 5 ans ou plus.
Mais c'est sérieux?
Tout ce qu'il y a de plus sérieux.
5 ans ou plus, tu peux devenir directeur à 5 ans?
Oui, à partir de 5 ans. C'est
Attends, je vais dire à ma fille.
C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et l'annonce, vous imaginez bien, un énorme succès. La société a déjà reçu plus de 100 000 candidatures en 2 semaines. Beaucoup d'adultes ont postulé, mais aussi des enfants. Environ 25% selon Candy Fun House. L'heureux élu, une fois recruté, aura le droit à une formation avancée à la dégustation. Et le plus important, parce qu'il faut penser aux dents, il ou elle bénéficiera d'une assurance dentaire intégrale.
Ah bah quand même. Bon bah c'est sympa.
C'est le minimum.
Ça t'intéresserait toi?
Non, je pense qu'au bout d'une semaine j'en pourrais
être un peu écœuré.
Ouais.
Merci beaucoup Quentin. Allez, on va accueillir le gagnant de la voix du jour.
RMC, la voix du jour.
Enfin, j'espère qu'on l'accueille. J'espère qu'il aura la bonne réponse. Bonjour Bruno. Vous nous appelez de Béric dans le Morbihan. Est-ce que vous êtes là, mon cher Bruno? Est-ce que vous m'entendez, Bruno? Vous savez ce qu'on va faire? On va réécouter la voix du jour. On aura votre réponse juste après.
Et toujours en sorte d'oxygéner le groupe, de mettre de la fraîcheur. Parce qu'on ne sait jamais aujourd'hui, si j'avais une liste de 23 pour la Coupe du Monde, je suis quasiment certain que ça ne sera pas la même en novembre.
Alors, Bruno. Bonjour Bruno. Est-ce que vous savez qui est la voix du jour?
Oui, Didier Deschamps.
Eh bien, bravo. Didier Deschamps qui donne une longue interview dans Le Parisien ce matin. Il se montre serein avant le Mondial au Qatar. Et puis, il dit qu'il est toujours à fond. Je ne continue pas pour continuer. Je suis là pour gagner, dit-il. Bravo à vous, Bruno. Vous savez ce que vous avez gagné? Une Nice Watch Solar Power qui se recharge à la lumière naturelle et artificielle. Eh bien, bravo. C'est un joli cadeau pour commencer la journée.
Ah oui, merci bien.
Eh ben, je suis ravie de vous l'offrir. On vous envoie tout ça. Passez une excellente journée à l'écoute d'RMC. Vous restez avec nous dans un instant. La météo suivie du journal. Il est 5h30, vous écoutez RMC, c'est l'heure du journal d'Alexandra Stirgan. Bonjour Alexandra.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. L'inquiétude demeure autour du bombardement de la centrale de Zaporijjia en Ukraine, touchée à deux reprises ce week-end, des attaques suicidaires selon le chef de l'ONU. Les précisions à suivre dans ce journal. Un cessez-le-feu très fragile entre Israël et le djihad islamique en Palestine. Accord de trêve trouvé hier soir après 3 jours de violence. Et puis une première réussite pour Igor Tudor avec l'OM. Marseille s'est imposé 4-1 face à Reims hier soir.
Et ce matin, le secrétaire général de l'ONU parle de frappes suicidaires à Zaporijjia en Ukraine.
Antonio Guterres exige l'arrêt des attaques sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Située au sud-est de l'Ukraine, la centrale de Zaporijjia a été touchée à 2 reprises ce week-end. Zaporijjia est aujourd'hui sous le contrôle russe, mais Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'être les auteurs des frappes. Benoît Ballet.
Oui, il y a d'abord les autorités russes d'un côté qui affirment que c'est un lance-roquettes ukrainien qui est à l'origine d'une frappe dans la nuit de samedi à dimanche. Une frappe qui aurait endommagé des bâtiments administratif et touché une zone de stockage de combustible nucléaire usagé. Et puis de l'autre côté, les Ukrainiens, par la voix de la compagnie d'État en charge de la gestion des centrales, qui annonce qu'un des employés de la centrale de Zaporijjia a dû être hospitalisé pour des blessures causées par l'explosion d'une des roquettes tirées samedi soir par les Russes. Les détecteurs de surveillance des radiations autour du site seraient touchés, rendant impossible la détection d'une éventuelle hausse de la radioactivité. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, il y a plus de 5 mois, l'Agence internationale pour l'énergie atomique n'a plus accès à la plus grande centrale nucléaire d'Europe, ce que le secrétaire général de l'ONU appelle une nouvelle fois ce matin de ses voeux.
Les précisions de Benoît Ballet. On prend la direction de Gaza maintenant, où une trêve est entrée en vigueur hier soir entre le djihad islamique, groupe armé palestinien, et Israël, sous la médiation de l'Égypte. Ce cessez-le-feu intervient après 3 jours de violence qui ont fait 44 morts côté palestinien. La trêve est respectée pour l'instant, mais qui reste très fragile, selon Dima Al-Sadjia, chercheuse à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France.
Le djihad islamique, de son côté, a demandé un allègement du blocus israélien sur Gaza et la capacité de ravitailler la centrale électrique à Gaza. Il a demandé des garanties aux Égyptiens sur le dossier des prisonniers politiques palestiniens. Tant que la situation de blocus existe dans la bande de Gaza, je pense que un accord comme celui-là d'une désescalade ne peut qu'être temporaire.
RMC 5h34, nouveau pic de chaleur attendu cette semaine.
Oui, 2 départements sont déjà aujourd'hui en vigilance orange canicule, le Gard et le Vaucluse. Et cette liste devrait s'allonger dans les prochains jours. On attend un nouveau pic de chaleur à la fin de la semaine. Une météo peu clémente donc cet été pour les agriculteurs. Difficile en effet de faire pousser fruits et légumes, surtout avec les arrêtés pris par certaines préfectures pour limiter l'usage de l'eau. Marion Tessen s'est rendue à la cueillette de Cergy dans le Val-d'Oise.
Au bord de l'autoroute, la cueillette de Cergy dans le Val-d'Oise est tenue par la famille Thomassin. Cet été, avec la sécheresse et les restrictions d'eau, l'organisation est différente pour Thierry, le fondateur de cet endroit.
Ouais, là, on voit c'est sec. On essaye de répartir l'eau à peu près sur toutes les cultures, en sachant qu'on a des cultures qui demandent un peu moins d'eau. Donc, suivant les légumes, on essaye de partager l'eau.
Dans tout le département, des mesures de limitation de l'usage de l'eau sont en place. Depuis le mois de juillet, Thierry organise l'arrosage pour qu'aucune variété n'en manque.
On a par exemple les pommes de terre, elles sont toutes arrivées à maturité, on a arrêté l'eau. Par contre, on a des tomates sous serre ou ça, on les biberonne à l'eau, c'est indispensable.
Autre solution pour s'assurer que l'eau est utilisée à bon escient, le goutte à goutte.
Vous avez plus d'évaporation, Vous avez plus un jet qui se balade dans l'air, l'air évapore une partie, tout arrive au niveau de la plante, du sol. Là, c'est bien, les tomates, on met ça, ça y est, c'est le goutte à goutte, il est mis pour l'année, ça se passe bien. L'avenir, c'est ça.
Et pour Thierry et la cueillette de Cergy, il faudra continuer de s'adapter puisqu'une nouvelle vague de chaleur est attendue cette semaine en Ile-de-France.
Et eux aussi doivent s'adapter, les restaurateurs, face à l'inflation. Ils essaient de trouver des solutions pour ne pas faire grimper les prix sur leurs menus, utiliser des produits moins coûteux ou tout simplement réduire les portions dans les assiettes. Tous les moyens sont bons. Reportage dans les cuisines du Mesturet à Paris de Léna Marjac avec Romain Poiseau.
Dans les cuisines du Mesturet à Paris,
fais gaffe à la cuisson.
Régis Feb, le chef exécutif du restaurant, a changé certains produits de la carte.
Au lieu
de
travailler des riz de veau, on s'est mis à travailler des riz d'agneau, qui sont un petit peu moins chers. Le riz de veau, ça vaut entre 25 et 30 euros le kilo à peu près. Avec le riz d'agneau, ça vaut entre 12 et 15. On a changé le produit, mais on n'a pas changé la qualité.
Et pour moins dépenser, il récupère certains aliments pour ne plus gaspiller, tout en mettant sa créativité en marche.
En amuse-bouche, c'est du pain qu'on a recyclé, qu'on a fait tremper dans le lait avec des œufs. On a pris parti de recycler le pain. Comme ça, ça nous évite d'acheter.
Dans l'assiette, l'amuse-bouche fait saliver.
Pas délicat, très doux, pas soyeux.
Bruno est un habitué et depuis que la carte a évolué, il trouve toujours son compte.
J'ai toujours été satisfait, il n'y a pas de problème. Sinon, je ne reviendrai pas aussi régulièrement, je pense.
Mais certains restaurateurs ont dû revoir les portions servies dans les assiettes. C'est le cas de Michel Nas. Il tient un restaurant, le Savoyard, à Chambéry.
On peut avoir un poulet où on mettait 180 grammes par personne, on n'en met plus que 140. Les 40 grammes manquants, on peut le remplacer par une farce qu'on a réalisée avec d'autres produits, peut-être un petit peu moins nobles.
Et avant cela, il avait déjà dû augmenter les prix de certains plats, notamment les raclettes et les fondues.
Il a été critiqué en coulisses avant même le début de la saison. On en a parlé il y a quelques minutes avec Momo au 32-16. Igor Tudor était très attendu pour son premier match officiel hier en tant qu'entraîneur de l'OM. Premier et match en tout cas en championnat, finalement ça l'a fait.
Et oui, Marseille s'est finalement largement imposé face à Reims en clôture de la première journée de Ligue 1. 4-1, malgré une pré-saison compliquée, les Marseillais ont offert une solide prestation au Vélodrome, Florent Germain.
Oui, effet rarissime pour un premier match. L'entraîneur marseillais Igor Tudor avait pourtant été sifflé à l'annonce de son nom par le speaker. Le coach marseillais soulagé après la victoire de son équipe.
Je suis content, c'est une victoire nette et méritée. La première mi-temps m'a beaucoup plu, il y a eu beaucoup d'intensité. En seconde mi-temps, un peu moins, mais c'est une victoire méritée. Je veux féliciter les joueurs et les supporters pour l'ambiance.
Tudor s'est même permis de mettre Dimitri Payet remplaçant. Ce choix a surpris, mais son coéquipier Matteo Guendouzi éteint la polémique.
Il a su qu'il allait être remplaçant, mais il a toujours encouragé les coéquipiers. On sait que voilà, c'est quelqu'un de très professionnel, c'est quelqu'un qui, même avant le match, il rigolait avec nous. Et il n'y a vraiment aucun problème avec Jim. On sait très bien qu'il répondra toujours présent, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. C'est quelqu'un vraiment de très important.
Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Luis Suarez, les nombreuses recrues ont brillé hier. Le visage de l'OM a beaucoup changé et Marseille a enfin retrouvé le sourire.
Et puis, autre résultat hier, 1-0 pour Lorient face au Stade Rennais. Cela faisait 10 ans que le FC Lorient n'avait pas gagné à Rennes.
Les courses.
Le Quintet Plus se déroule sur l'hippodrome de Clairefontaine à 18h. Tout de suite, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est l'As Matera et l'outsider, le numéro 10, Il est beau de Well. La course du Quintet est à suivre, comme toujours, en direct sur RMC Découverte.
Merci beaucoup, Alexandra. On te retrouve dans moins d'une heure sur RMC et sur RMC Story avec toute l'équipe. Tout de suite, c'est la Story Sport.
La Story Sport.
Avec Léna Marjac. Bonjour Léna.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Ce matin, tu nous parles d'Alexander Zverev, le joueur de tennis allemand, a annoncé ce week-end être diabétique depuis ses 3 ans.
Oui, dans le monde du tennis, tout le monde le savait, ou presque, mais le joueur allemand n'avait jamais officiellement confirmé être atteint de diabète. La raison, le sentiment de honte, car il a souffert du regard des autres dans son enfance. Et dans une interview au journal L'Équipe, Alexander Zverev raconte de durs moments devenus même des traumatismes. Parfois, j'étais invité aux anniversaires de copains d'école et leurs parents ne me laissait pas manger de gâteau. Il me disait « Tu as la maladie du sucre, tu n'as pas le droit d'en manger, j'étais exclue. »
Oh bah c'est horrible. Depuis, il a appris à vivre avec et à devenir un grand champion malgré la maladie, malgré son diabète.
Et oui, et pourtant, les médecins ne lui prédestinaient pas une grande carrière. Il n'y a absolument aucune chance que vous puissiez faire du sport de haut niveau avec ce type de maladie. Vous pouvez pratiquer le tennis en loisir, mais vous n'atteindrez jamais un niveau physique suffisant. Voici ce que les médecins lui répétaient quand il était jeune. Il a clairement prouvé le contraire à 25 ans. Il est le numéro 2 mondial, il a remporté 19 titres, dont une médaille d'or aux Jeux Olympiques à Tokyo l'an dernier.
Gold for Alexander Zverev. Probably the biggest moment.
C'est donc un immense message d'espoir pour tous ceux qui sont malades, pour ceux qui sont diabétiques. Mais j'imagine que ça se gère. Comment il fait avec cette maladie?
Alors, il a un petit appareil dans son sac de raquette, un lecteur de glycémie qui lui permet de mesurer son taux de sucre dans le sang et de le réguler si besoin. Il se contrôle à chaque changement de côté et fait lui-même ses injections d'insuline. Et alors, il n'est pas le seul sur le circuit professionnel de tennis à être diabétique.
Ah bon?
JC Aragon, oui, un Américain de 27 ans, 497e mondial. Ça fait 11 ans qu'il a développé un diabète de type 1 et sur le court, la gestion de sa maladie est devenue un combat permanent.
En match, comme tout le monde, quand vous êtes nerveux, vous avez naturellement plus de sucre dans le sang. Et j'ai donc un taux très élevé. J'ai un appareil qui permet de le contrôler et aussi une pompe à insuline.
Mais alors, cette pompe à insuline est trop lourde, il ne peut donc pas jouer avec. Et alors, il va se piquer directement sur le court dans les toilettes.
Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est très contraignant. Donc, face à toutes ces difficultés à gérer la maladie au quotidien, Zverev, lui, a lancé sa fondation.
Oui, la Alexander Zverev Foundation, le numéro 2 mondial, veut venir en aide aux jeunes atteints de diabète en les aidant à financer leur traitement. Et alors, en dévoilant sa maladie, il veut également devenir un modèle de réussite. Je veux faire passer le message aux parents et aux enfants à travers le monde qu'il n'y a aucune limite à part celle que vous vous imposez, a-t-il écrit dans un communiqué. Et alors, en plus de lancer sa fondation, la bonne nouvelle du week-end, c'est cette petite vidéo de 30 secondes qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux. Le voilà enfin de retour sur un terrain d'entraînement après sa blessure à la cheville à Roland-Garros. Alors maintenant, on a forcément hâte de le revoir sur un court de tennis en compétition.
Évidemment, merci beaucoup Léna Marjac pour cette Story Sport. On te retrouve demain. Et je rappelle que la Story Sport est à réécouter en podcast sur l'appli RMC. Il est 5h42.
RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
On en vient à présent à ce qui s'est passé vendredi soir à Pontoise. Deux enfants, 10 et 11 ans, gravement blessés par une moto lors d'un rodéo urbain. L'une des deux victimes a été touchée à la tête et risque de garder des séquelles neurologiques lourdes. C'est ce que dit le parquet. Le motard a pris la fuite vendredi avant de se présenter au commissariat. Il a reconnu les faits, Ambre Le Poivre.
Âgé de 18 ans, le principal suspect l'avoue, oui, c'est bien lui qui conduisait la motocross et qui a renversé les deux enfants. En garde à vue, il reste évasif sur la manière dont le drame s'est déroulé, indique une source policière. Mais il affirme en tout cas qu'il s'agissait d'un accident. Il n'a pas vu les enfants en train de jouer à côté du terrain de basket. Après le drame, le jeune homme, déjà connu pour conduite sans permis, a d'abord pris la fuite pour se réfugier chez ses parents qui habitent le quartier. Selon nos informations, ce sont eux qui lui ont conseillé de se rendre à la police. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Ils tentent notamment de retrouver la moto que le jeune homme conduisait au moment du drame. Des individus ont réussi à cacher le véhicule juste après l'accident et avant que les secours n'arrivent sur place.
On voulait ce matin absolument revenir sur ce phénomène qui n'est pas nouveau. On en a déjà beaucoup parlé. La législation a été durcie. Mais rien n'y fait. Les rodéos se multiplient dans le département du Val-d'Oise. Depuis avril, plus de 500 interventions recensées pour des rodéos urbains. 37 personnes interpellées, 34 motos saisies. Le 8 juin dernier, un jeune homme âgé de 19 ans est mort après avoir été percuté par une moto lors d'un rodéo urbain à Rennes. Alors, que faire? Quelles sont les solutions? Vous nous dites ce matin au 32-16. On vous attend également sur l'appli Direct Studio et sur la page Facebook Les Matins RMC. En attendant, écoutez Natalia Pouzirev, députée Renaissance des Yvelines, rapporteur d'une proposition de loi qui a fait des rodéos motorisés un délit en 2018. Écoutez son idée.
Il faut qu'il y ait une confiscation systématique des véhicules. Les motos ne sont pas toutes volées, elles sont parfois prêtées, louées, et elles ne doivent pas être mises en circulation parce qu'un propriétaire, plus ou moins de mauvaise foi, viendrait les réclamer. C'est par l'utilisation des vidéos, par le recoupement de preuves, que l'on arrive à appréhender les délinquants et à saisir, à confisquer les véhicules. Donc ça, confiscation plus systématique, et puis bien sûr, il faut que des sanctions soient prises, parfois jusqu'à la prison.
Bon, le problème, c'est aussi que les policiers ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils ont des consignes de ne pas engager une poursuite, en tout cas qu'en cas de délit grave pour des auteurs susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui, de privilégier les interpellations différées, notamment en relevant la plaque d'immatriculation. Ces consignes, eh bien, elles conduisent en pratique à une interdiction quasi systématique de poursuivre les auteurs de rodéos motorisés. C'est ce que dit un rapport parlementaire sur le sujet. On en parlera tout à l'heure à 6h40 avec la députée du Val d'Oise, Émilie Chandler. Rendez-vous à ne pas manquer. L'autre sujet qui vous fait réagir ce matin, c'est la sécheresse face à cette situation historique et qui est amenée, il faut le dire, à se reproduire. On vous a demandé quelles devaient être les solutions pour forcer la population à limiter sa consommation d'eau. Est-ce qu'on devrait généraliser la tarification progressive de l'eau, pénaliser les plus gros consommateurs? Vous nous dites là aussi au 32-16, on en débat ensemble tout au long de la matinée. Il est 5h45 et vous écoutez RMC. On a Robert, tiens, qui nous appelle au 32-16. Robert, qui a 36 ans et qui est chef d'entreprise dans le bâtiment. Bonjour Robert, je crois que vous nous appelez pour parler d'un tout autre sujet, parce que vous n'êtes pas en France, vous êtes en voyage en Islande.
Oui, bonjour Anaïs. Effectivement, je suis avec mon épouse en Islande. Il est bientôt 4h du matin et nous avons été réveillés par... Alors, on va pas dire une tempête, mais un vent assez fort à 15 mètres seconde environ. On a une tente sur le toit de notre véhicule. On est dans un lieu assez magique, à Evravellir, dans les Hautes-Terres, vraiment au cœur de l'Islande volcanique. Hein. L'environnement, le paysage est absolument somptueux avec des fumerolles juste à côté de nous, des petits geysers.
Donc là, vous voyez le volcan qui est entré en éruption. Parce qu'une éruption volcanique a commencé la semaine dernière près de Reykjavik. On a vu les images, c'est hyper impressionnant. Vous voyez ça, vous ?
Non. Alors, on n'est pas très loin. On est à environ 250 km du volcan. Ouais. Et on se pose effectivement la question de savoir si on y va ou si on n'y va pas, parce que les autorités ici en Islande recommandent quand même d'éviter le secteur. D'être prudent. Il y a déjà eu quelques blessés. Et il y a des gaz toxiques qui s'échappent.
Ouais. Alors, il faut mieux écouter évidemment les autorités. Hein.
Absolument.
Rester très très prudent. C'est votre première fois en Islande ?
Non, c'est la cinquième fois que nous venons en Islande. Oui, donc on connaît pas mal le pays. Et là, vous voyez, aujourd'hui, il pleut, il fait froid, il y a 4 degrés ce matin.
Oula, un petit coup de froid. Nous, c'est très différent des températures qu'on a ici en France.
J'imagine, je vous écoute.
Vous partez à chaque fois au même moment de l'année, en plein été, vous partez en Islande, vous fuyez.
Absolument. On fuit la chaleur et on prend le bateau, le ferry au nord du Danemark.
Ouais.
On a 2 jours et demi de mer, 2 nuits en mer, et on rejoint l'est de l'Islande. Et là, on traverse toute l'Islande avec un véhicule d'aventure qui est équipé. On a absolument tout pour vivre en autonomie. On n'a pas vu une pompe à essence depuis jeudi.
C'est un petit van, c'est ça ?
Ouais, absolument.
Ouais,
on va traverser jusqu'au fjord de l'ouest qui se trouve en face du Groenland.
Ouais, c'est fantastique, vous nous faites voyager ce matin sur RMC, j'adore. Dites une question que doivent se demander beaucoup d'auditeurs, en tout cas que je me pose moi personnellement. On dit souvent que c'est cher l'Islande. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, je vous confirme que c'est très cher. Il faut compter, par exemple, un plat dans un restaurant, il faut compter entre 25 et 30 euros.
Ouais.
L'essence est bien au-delà des 2 euros de litre. Oui, je vous confirme, Anaïs, que tout est très cher en Islande. Oui.
Ah oui, donc c'est au-delà même du prix en France pour l'essence, pour les restos.
C'est un vrai budget.
Sans parler évidemment du prix des billets d'avion.
Oui, alors là, on est venu en bateau. Les billets d'avion, je crois, sont pas forcément excessivement chers.
Ouais,
mais le bateau, lui, oui, c'est un vrai budget. Hein, il faut faire des économies toute l'année pour venir en Islande.
Mais ça vaut le coup.
Ah oui, c'est vraiment un pays fabuleux.
Bah pour y revenir, encore une fois, la cinquième fois, c'est vraiment que ça vaut le détour, si je puis dire. Merci beaucoup, Robert, de nous avoir fait voyager ce matin sur RMC. Petite question, les aurores boréales, c'est à ce moment-là de l'année ou...
Non, pas du tout. À ce moment-là, c'est à partir d'octobre, c'est en hiver.
Ah, vous en avez déjà vu ? Vous avez déjà voyagé en hiver ?
Oui, j'en ai déjà vu des aurores boréales au-dessus du Groenland en avion.
Donc, voilà. carrément. Merci Robert de nous avoir envoyé cette petite carte postale. Vous faites
merci,
comme Robert, justement.
Allez, bonne journée.
Très belle journée à vous. Vous faites comme Robert, justement, c'est vrai, après tout. On est le 8 août, c'est aussi les vacances pour certains Français, pour ceux qui, on va dire, ont la chance de voyager. parce que c'est vrai que ça a un coût. Si vous voulez nous envoyer une petite carte postale comme ça, vous pouvez faire le 32-16. Je serais ravie de vous prendre ce matin sur RMC. Il est 5h49. Dans un instant, on va retrouver Angèle. Salut
bonjour
Angèle.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Tu nous parles des Beatles aujourd'hui.
Oui, tu vois cette pochette mythique où on voit les Beatles sur un passage piéton.
Mais bien sûr.
Et ben, en fait, je l'ai à la maison. 53 ans de cet album.
Et on va en écouter, j'imagine.
Bien sûr.
À tout de suite. Il est 5h52, bon réveil à tous. À la une ce matin, la désescalade va-t-elle tenir dans la bande de Gaza hier soir? Israël et le groupe armé palestinien Djihad islamique ont annoncé une trêve et un cessez-le-feu après 3 jours de violence et la mort de 44 personnes. Très fragile, l'armée israélienne dit avoir mené des frappes sur des positions du groupe armé jusqu'aux dernières minutes avant le début du cessez-le-feu. On va y revenir. À la une également ce matin, le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia bombardé pour la deuxième fois en un peu plus de 24 heures ce week-end. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Et puis l'OM s'est largement imposé face à Reims hier soir en clôture de la première journée de Ligue 1. Victoire 4-1. Un mot de la météo. Le pic de chaleur est donc attendu en fin de semaine et là ça grimpe dès aujourd'hui. Hein.
Exactement, on sera déjà entre 25 et 32 sur la moitié nord, 30 à Paris et à Rennes, et puis 30 à 37 dans le sud, jusqu'à 37 à Nîmes et à Mont-de-Marsan. Sous le soleil, à peine quelques orages sur les Alpes, les Pyrénées et le relief corse dans l'après-midi.
Merci Anthony Kazmarek. C'est l'heure de l'été d'Angèle.
L'été d'Angèle.
Bonjour Angèle.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu nous replonges dans un des meilleurs albums de musique de tous les temps, Abbey Road, des Beatles.
Oui, parce que cette pochette mythique, celle où l'on voit les Beatles marcher sur un passage piéton, a été prise il y a tout juste 53 ans. Abbey Road, c'est le 11e album des Beatles et d'ailleurs le dernier. Here comes the sun.
J'adore, parfait pour l'été. Hein.
Oui, j'avais envie de revenir sur l'histoire de cet album, l'un des plus vendus au monde et plus particulièrement de cette pochette pour célébrer cet anniversaire. Vous la visualisez sûrement, hein, nos 4 Beatles à la file sur ce passage piéton. Eh bien Naïs, cette photo a été prise par un certain Ian McMillan, un photographe écossais. La rue Abbey Road, celle où la photo a été prise, c'est là où se trouvent les studios mythiques des Beatles. Et c'est aujourd'hui une image rentrée dans l'inconscient collectif, l'une des pochettes les plus célèbres au monde.
Objet de beaucoup de fantasmes aussi.
Effectivement, certains disent que c'est un faux Paul McCartney dessus, qui serait en réalité décédé par exemple. Mais cette pochette est tellement mythique que depuis décembre 2010, ce lieu est classé historique. D'ailleurs, pendant le confinement, des équipes municipales ont profité du peu de touristes pour repeindre les marquages des lignes, voulant assurer, je cite, la visibilité et une sécurité accrue. C'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier, mais à la base, ça reste un passage piéton.
Il y a la pochette, puis il y a évidemment l'album en lui-même mythique. Hein,
oui, effectivement, c'est le dernier album enregistré des Beatles, sorti en septembre 69, l'un des albums les plus légendaires par son histoire, donc, mais aussi grâce à ses chansons. C'est ce que m'a expliqué Jacques Volcouve, spécialiste et historien des Beatles.
Ils étaient très concentrés sur leur créativité. On partait pas un peu dans tous les sens, comme ça a été un peu dans le cadre de l'album Let It Be. Et puis ça donnait à chaque fois des créations de chansons qui s'inscrivent dans un inconscient populaire. Est-ce que inconsciemment les Beatles sont saisis que c'était la dernière fois ils enregistrent un album? C'est leur chant du cygne, c'est une explosion d'idées. Et puis aussi, faut bien dire que quand les quatre étaient ensemble, il y avait une sorte de magie qui se créait. Seuls les quatre ensemble pouvaient ressentir ça.
Et ça, on ne pourra pas dire le contraire. Et j'imagine qu'à tout juste 80 ans, Paul McCartney non plus ont célébré son anniversaire il y a quelques semaines. Et ce bel âge est loin de l'arrêter, puisqu'il a été en concert en mois de juin dans un prestigieux festival, le festival de Glastonbury, faisant de lui la tête d'affiche la plus âgée de l'histoire de l'événement.
Non. Merci beaucoup Angèle. Je vais te raconter un truc. Tu sais, Abbey Road, je l'ai à la maison.
C'est vrai.
Et je l'ai piqué à mon père.
Ah non. Ouais,
évidemment, ça fait partie des albums qu'on pique à
c'est
papa.
L'héritage.
Évidemment. Merci beaucoup Angèle.
Avec plaisir, à demain.
C'était un plaisir d'écouter les Beatles pour se réveiller ce matin. Je suis sûre que c'est
belle. RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.